Voilà, nous allons passer à la parole. Et c'est vrai, comme ce chant nous dit, nous voulons voir Jésus dans toute sa grandeur. Jésus a dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il nous a annoncé des promesses. Nous disons que nous ferions de choses aussi grandes que lui. Et nous allons bientôt entrer dans cette période de Noël et nous allons voir le petit Jésus dans les crèches. Et je pense que beaucoup de gens, quand ils voient Jésus, c'est le petit Jésus en fait, le petit Jésus de la crèche. Et peut-être même les chrétiens voient en Jésus le petit Jésus et ne voient pas Jésus dans toute sa grandeur, dans toute sa splendeur, dans tout ce qu'il peut réaliser et faire encore pour le monde et pour le chrétien et pour l'Église. Communiquer la vie, engendrer la paix. Nous voulons voir Jésus un seul instant. Et la personne de qui je vais vous parler ce matin, c'est ce qu'elle voulait voir, voir Jésus dans sa grandeur. Un seul instant lui suffisait pour pouvoir être délivré de son mal. Et je voudrais que ce matin, nous prenions conscience que nous devons voir Jésus, quelqu'un de grand. Nous devons voir Jésus dans sa grandeur, non pas le petit Jésus qui est dans la crèche, non pas le petit Jésus qui s'occupe simplement de nos petits bobos, mais le grand Jésus, le Fils de Dieu, qui est venu pour sauver l'humanité, nous donner la paix, la joie, la vie éternelle, la vie en abondance. C'est ce Jésus-là que nous devons voir. Et cette personne qui avait besoin de rencontrer Jésus, c'était cela qu'elle voulait voir dans sa vie. Et peut-être ce matin, nous sommes peut-être avec un besoin urgent et pressant. Et je vous conseille de vous approcher de ce Jésus-là. Pas simplement le petit Jésus. Oui, il y a eu le petit Jésus dans la crèche. Mais heureusement, il a grandi. Il est devenu adolescent, il est devenu un jeune homme, il est devenu un homme dans la pleine force de l'âge. Et il a accompli de grandes choses. Nous allons lire l'évangile de Marc au chapitre 5, à partir du verset 21. Marc chapitre 5, à partir du verset 21. Jésus regagna en barque l'autre rive du lac. Là, une foule immense s'assembla autour de lui sur le rivage. Survint alors l'un des responsables de la synagogue, nommé Jaïrus. En voyant Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia instamment, « Ma petite fille va mourir, viens lui imposer les mains pour qu'elle guérisse et qu'elle vive. » Alors Jésus partit avec lui, suivi d'une foule nombreuse qui le serrait de tous côtés. Dans la foule se trouvait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait été soignée par de nombreux médecins et en avait beaucoup souffert. Elle avait dépensé toute sa fortune sans trouver la moindre amélioration. Au contraire, son état avait empiré. Elle avait entendu parler de Jésus et dans la foule, elle s'était approchée de lui par derrière et avait touché son vêtement en se disant « Si j'arrive à toucher ses vêtements, je serai guérie ». À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle se sentit délivrée de son mal. Aussitôt, Jésus eut conscience qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et demanda « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples dirent « Tu vois la foule qui te presse de tous côtés et tu demandes qui m'a touché ?» Mais lui continua à parcourir la foule du regard pour voir celle qui avait fait cela. Alors saisie de crainte et toute tremblante, la femme, sachant ce qui lui était arrivé, s'avança, se jeta aux pieds de Jésus et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit, « Ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Jésus est encore, comme nous le voyons, fort sollicité en ce jour. Avant cela, il vient d'opérer une grande délivrance, si vous lisez le texte de l'évangile de Marc, une grande délivrance sur un homme possédé de plusieurs mauvais esprits. Cet homme-là était enchaîné, on l'enchaînait, il cassait ces chaînes et tout ça tellement été envahi par une légion de démons. Et ça a fait grand bruit, évidemment, dans la région. Et maintenant, en sortant de la barque, une grande foule l'attend et il est interpellé par un père dont sa fille est mourante. Et bien sûr, nous savons que Jésus a toujours été ému de compassion envers ceux qui sont dans la souffrance, ceux qui sont malades. Et il ne peut pas résister à l'appel de ce père. Et il se dirige vers la maison de cet homme, ne pouvant pas laisser cet homme dans le désarroi. Mais nous voyons que la foule est compacte. Et il peine pour se frayer un chemin. Tout le monde veut voir ce prophète extraordinaire qu'est Jésus, accomplissant bon nombre de miracles, faisant du bien tout autour de lui. Et il est évident qu'à chaque déplacement de Jésus, il provoque souvent l'émeute. Hein. Un bon service d'ordre aurait été bien nécessaire. Nous pouvons nous représenter ce que c'est cette cohue quand nous voyons des fois des images à la télévision où une grande vedette se promène dans les rues et tout le monde accourt. Et la police a de la peine à maintenir l'ordre, à ne pas se faire bousculer. Et c'est un peu cela que nous devons nous imaginer ce qui se passait chaque fois que Jésus traversait les rues et arrivait dans les villages. Jésus, quelque part, était une célébrité pour l'époque, mais pas une célébrité comme nous connaissons. C'était une célébrité remplie d'amour, faisant du bien autour de lui, recherchant la paix autour de lui. Voilà quel genre de célébrité était Jésus. Et au milieu de cette foule déchaînée se trouvait une femme, comme nous l'avons lu, qui était tenaillée par la souffrance. Elle désirait tant pouvoir s'approcher de Jésus, lui exposer son problème, lui parler de sa souffrance, lui parler de sa solitude. Mais comment l'atteindre? Il y a tant de monde qui entoure Jésus. La foule est compacte, on se bouscule. Et en plus, elle a entendu que Jésus serait très occupé pour une urgence, une petite fille qui se meurt, et doit se rendre à son chevet. Donc, mission presque impossible pour cette femme de pouvoir parler, de pouvoir exposer son problème à Jésus. Qui est donc cette femme qui cherche à rencontrer Jésus? Comme nous le lisons, une femme bien malade, souffrant de problèmes gynécologiques, et la loi de Moïse est très sévère envers ces femmes. Elles sont considérées comme impures. Nous allons lire le texte dans le Lévitique, chapitre 15, 25 à 28. Je ne vais pas vous donner un cours de gynécologie, loin de là, j'en suis fort incapable. Mais nous lisons ce que la Bible dit à ce sujet, donc la loi de Moïse. Si une femme a des pertes de sang pendant plusieurs jours en dehors de la période de ses règles et au-delà du temps normal de son indisposition, elle sera impure tout le temps que durent ses pertes, comme au temps de ses règles. Tout lit sur lequel elle se couchera pendant le temps que durent ses pertes et tout meuble sur lequel elle s'assiera sera impur, comme dans le cas de son indisposition. Quiconque les touchera sera impur. Il lavera ses vêtements, se lavera à l'eau, il sera impur jusqu'au soir. Lorsque ses pertes cesseront, elle comptera 7 jours, après quoi elle sera pure. C'était pas du gâteau, pauvre femme. Heureusement que les temps, quelque part, ont changé. Mais voilà ce que la Bible dit, ce que la loi de Moïse nous dit. La loi de Moïse était donc très stricte. Au niveau de l'hygiène intime, une femme était considérée impure pendant la période de ses règles, et encore plus pour cette femme, ayant des hémorragies. Tant qu'elle n'était pas guérie, son impureté demeurait permanente. Ce qui l'obligeait à vivre en marge de la société, vivant dans la solitude, à l'écart des autres, considérée comme impure. Non seulement elle souffrait physiquement, mais moralement. Elle avait vraiment une pauvre vie qui la poussait vraisemblablement dans une profonde dépression. 12 ans de solitude, imaginez-vous, Quel drame pour cette pauvre femme. Nous-mêmes, nous pouvons vivre une souffrance morale, physique, nous poussant à vivre en retrait peut-être de la société à cause de ce problème, tellement parfois notre souffrance est forte. Et parfois nous vivons incompris dans nos souffrances. Notre souffrance parfois peut être si forte que nous n'avons envie de rencontrer personne. Et ça, vous avez déjà remarqué, quand des gens sont dans la vie d'une certaine dépression, ils n'ont envie de rencontrer personne. Et peut-être ça nous est déjà arrivé. On n'a pas envie de rencontrer quelqu'un, on n'a pas envie de s'expliquer chaque fois, de ressasser son mal, sa maladie. Comment vas-tu? Et on recommence. Et bien souvent, comme je l'ai déjà dit, quand on dit à quelqu'un « comment vas-tu ?», on n'attend sûrement pas la réponse. C'est une formule de politesse dont on n'attend pas une réponse. Et si la personne veut dire quelques mots de son état, parfois on est ennuyé. Et les gens le savent. Donc les gens parfois se taisent. Parce qu'on en a marre de s'expliquer, parce qu'on n'est pas compris, on n'a plus la force de parler. Nous nous mettons en retrait volontairement de nos amis, de nos familles. On vit une vie solitaire et dans la souffrance. Comme je vous l'ai dit, la loi de Moïse était dure envers cette femme. Imaginez, ça fait 12 ans qu'elle vit cette pauvre vie, cette vie de souffrance et de solitude, ne pouvant s'approcher de quiconque, de peur de le rendre impur comme l'affirme le Lévitique. Toute personne qui aurait touché cette femme était considérée comme impure. N'est-ce pas aussi un peu l'image du péché qui nous contamine, ce péché qui règne sur cette humanité, contaminant chacun d'entre nous. Oui, cette maladie qui ronge cette femme nous fait vraiment penser à l'image de ce monde qui vit dans l'impureté, qui vit dans le péché, qui contamine les autres. Nous sommes contaminés par le péché. Et bien souvent, ce monde cherche des solutions, mais n'en trouve pas. Ce n'est pas que cette femme n'ait pas cherché une solution à son mal. Il nous est dit qu'elle a consulté de nombreux médecins. Mais en vain, aucune solution à son problème, à sa souffrance. Il nous est dit, il nous est même rapporté qu'elle a dépensé toute sa fortune sans trouver un remède ou une guérison. Que ne ferait-on pas pour demeurer en bonne santé ? Quoi de plus normal ? La santé, c'est quand même important. Nous consultons régulièrement un médecin quand nous sommes malades, et nous avons raison. On peut avoir la plus grande fortune du monde et être en mauvaise santé. Quoique il est plus facile de pleurer dans sa Mercedes que sur son vélo, que quand on est en mauvaise santé. Mais c'est vrai que parfois l'argent ça aide, mais si l'argent ne nous permet pas de guérir, eh bien à quoi ça sert d'avoir cet argent ? Et quand nous nous souhaitons des bons vœux en début d'année, on dit toujours bonne année et bonne santé. Et on dit c'est important la santé, c'est vrai. C'est vrai que c'est important d'être en bonne santé. Et cette femme a perdu du temps, elle a perdu de l'argent pendant des années pour être au même point. Bien sûr, la médecine de l'époque n'est pas comparable à notre médecine actuelle. Il est fort probable qu'actuellement, son problème aurait pu être résolu. Mais nous sommes en l'an 33 de notre ère, et bien à ce moment-là, la médecine n'était pas fort avancée. Il nous est dit qu'elle a tout essayé. Eh bien, parfois, on est au même point que cette femme dans notre vie. Peut-être quelqu'un parmi nous, aujourd'hui, a tout essayé pour résoudre son problème. Une maladie, parfois, dont nous ne parvenons pas à être quittes. Un problème qui nous tenaille depuis des années. Une longue épreuve qui est survenue et qui n'en finit pas. On ne voit pas le bout du tunnel. Des problèmes familiaux sans fin. Il y a longtemps que ça dure et toujours pas de solution. Et pourtant, nous avons tout essayé. Et je sais que quand on a des soucis quelconques, on essaye, à moins qu'on soit maso, on essaye de les résoudre, on essaye un peu tout pour résoudre nos problèmes de santé, nos problèmes familiaux, nos problèmes financiers. On essaye tout. Nous nous rongeons les sangs afin de trouver une solution. Mais pas de résultat. Que faire alors dans nos difficultés? Et nous disons, j'ai tout essayé, mais en vain. Alors il y a une question qui se pose. Avez-vous essayé Jésus? Ah, c'est peut-être pas la meilleure tournure de phrase que je peux m'exprimer, mais avons-nous essayé Jésus? Et parfois, on s'adresse même à des chrétiens. Parfois, on traîne des problèmes qu'on essaie de résoudre soi-même sans penser à les exposer à notre Dieu, de les apporter à Jésus. On veut résoudre par soi-même ou on essaie de résoudre entre amis, entre copains. Mais avons-nous essayé d'apporter ce problème à Jésus pour qu'il puisse enfin le résoudre? Mais Jésus est trop occupé. Il est tellement assailli par tant de demandes. Il n'a pas le temps de s'occuper de mon cas. À quoi bon le déranger? Parfois, c'est ce que nous disons. Frères et sœurs, nous, le problème n'est trop grand, voire trop petit, ou anodin pour que Jésus ne s'en occupe. Il s'occupe de nous si nous nous approchons de lui. Et en désespoir de cause, cette pauvre femme se faufile au sein de la foule, cherchant si elle peut atteindre Jésus. Remarquons qu'au vu de la loi de Moïse, comme je vous le dis, elle contamine toute la foule. Elle contamine toute la foule par son contact. Puisqu'elle veut se faufiler pour atteindre Jésus, elle transgresse la loi. Qu'à cela ne tienne, il faut atteindre Jésus au plus tôt. C'est peut-être la seule occasion qui se présente à elle pour trouver une solution à son problème, eh bien je fonce dans la foule, tant pis, si les autres sont contaminés, ils auront qu'à se laver, tant pis, comme le prescrit la loi, mais moi je veux m'approcher de Jésus. Quand on veut s'approcher de Jésus, frères et sœurs, il faut aller au-delà des principes, au-delà des convenances. Pensons à Bartimée. Quand il a entendu que Jésus était dans le coin, il a commencé à crier, hurler. Les autres voulait le faire taire, mais lui criait encore plus fort. Il avait envie de rencontrer Jésus. Pensez aussi à la parabole de ce mauvais juge, cette veuve qui est allée lui casser les pieds régulièrement pour obtenir une réponse, pour qu'on puisse lui donner une réponse favorable à son problème. C'est comme cela que nous devons agir. Jésus dira que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Les violents. Il ne faut pas m'y prendre mes paroles. Ce n'est pas le moment d'aller nous battre les uns pour les autres. Mais cette violence spirituelle qu'il appelle, cette lutte ardente que nous devons faire dans la prière, harceler le trône de la grâce, c'est cela qu'il veut dire, pour que nous puissions obtenir une réponse. Et Jésus n'avait pas peur de bousculer la loi, des fois, sans la transgresser, bien entendu. Il n'avait pas peur. Cet homme, en quelque sorte, a usé de violence pour s'approcher de Jésus. Elle se dit, il n'y a qu'un seul moyen, je veux m'approcher de Jésus pour avoir enfin un espoir de guérison et de solution à ce problème physique. Tentons cette dernière solution, advienne que pourra, se dit-elle. Si je n'arrive pas à lui parler à cause de la foule, je mets ma foi en action, il est tout puissant. Normalement, il doit sentir ce que je fais. Je sais ce que je vais faire, je vais tenter tout pour le tout pour avoir une guérison. Je vais toucher le bord de son vêtement et peut-être il va se produire quelque chose. Je vais mettre ma foi en action, je vais toucher ce prophète pour que quelque chose se produise. J'aurai donc tout essayé en fin de compte. Là, elle aura vraiment tout essayé. Et elle met sa foi en action et tire sur le vêtement de Jésus. Frères et sœurs, quand nous nous approchons de Jésus, nous l'avons chanté, nous voulons voir Jésus dans toute sa grandeur. Quand nous nous approchons de Jésus avec foi, il faut que quelque chose se produise dans nos vies. Il n'est pas normal qu'il ne se produise rien. Alors il y a un problème dans notre façon de prier, dans notre foi. Ou alors nous devons demandez à Dieu ce qu'il attend de nous pour une réponse à telle prière, à cette prière. Il est important pour nous comme pour cette femme que nous mettions notre foi en action dans les différents besoins que nous avons. Nous ne pouvons pas rester bloqués, frères et sœurs, par les circonstances de la vie, par les obstacles que notre ennemi met sur notre chemin pour nous empêcher d'atteindre Jésus. Comme cette femme, il y avait tellement d'obstacles, mais il faut aller au-delà de ces obstacles. Parfois, ce n'est même pas notre ennemi qui met des obstacles sur notre route. C'est Dieu qui permet lui-même certains obstacles, voulant peut-être éprouver notre foi, voir si nous avons cette persévérance dans la prière. Il veut voir si nous sommes insistants afin d'assiéger le trône de la grâce, afin d'obtenir une réponse à notre demande. Pensons à Job et à sa vie de souffrance et à sa délivrance à cause de sa foi. Nous voyons comment il a obtenu la grâce de Dieu. Cette femme n'a pas mis sa foi dans une religion, dans une doctrine quelconque. Non, en Jésus seul, elle a mis cette foi. Lui seul étant capable de la guérir et de changer complètement sa vie. Et Jésus sent qu'une puissance est sortie de lui. Et demande « Qui m'a touché ?» Et ça fait réagir ses disciples. Ils ont l'air de dire « T'es un petit comique à toi. Tu vois un peu le monde qu'il y a, et tout le monde qui te bouscule, et qui veut s'approcher de toi, et tu demandes « Qui m'a touché ?» Ah, les disciples ne réalisaient pas ce qui venait de se passer. Il faut dire qu'ils étaient souvent à l'ouest, des fois, hein, dans les choses spirituelles, avant la Pentecôte. Il n'était pas toujours branché et ils n'ont rien remarqué. Mais Jésus savait que quelqu'un venait de recevoir une grâce à cet instant. Et Jésus cherchait dans la foule la personne en question. Oh, il savait bien qui c'était, savez-vous. Mais il voulait que cette femme s'approche. Cette femme, elle, se dissimulait au sein de la foule. Ne nous cachons pas quand Jésus intervient dans notre vie, mais rendons-lui gloire en témoignant de ces bienfaits qui nous sont accordés. Nous l'avons chanté tout à l'heure, merci. Merci Seigneur pour les interventions que tu as apportées dans ma vie et que le monde aussi le sache. Cette femme était dans la crainte, mais se sachant découverte, elle avoue sa maladie, elle avoue ce qu'elle a vécu, elle avoue sa solitude. Elle avoue son problème et elle parle de cette guérison qu'elle vient de ressentir dans son corps. Et Jésus a une parole de délivrance, d'amour et de pardon pour elle. « Ma fille, dit-il, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Ma fille, Jésus la considère comme un enfant de Dieu. Tu es guéri, libéré, je t'accorde cette guérison que tu as tant cherchée. Mais non seulement cela, reçois ma paix, reçois mon pardon, reçois mon salut. Voilà l'œuvre de Jésus dans une vie. Voilà quand nous voyons Jésus dans toute sa grandeur. Voilà ce qu'il opère dans nos vies, dans l'Église. J'ai l'œuvre de Jésus dans une vie. C'est une œuvre complète. Jésus ne s'intéresse pas seulement à notre corps, mais à notre être tout entier. Corps, âme et esprit lui appartiennent et sont renouvelés quand nous nous approchons de lui, renouvelés par la puissance libératrice de Jésus. N'avons-nous pas soif de voir ces choses dans l'Église? N'avons-nous pas soif de voir ces choses se produire dans nos vies? N'avons-nous pas soif de voir ces choses se produire dans nos familles? C'est vrai qu'on dit toujours le temps des miracles n'est pas passé. Malheureusement, nous n'en voyons pas. Il y en a. Il y a beaucoup de choses qui se sont produites dans nos vies, mais il y a des choses qui ne bougent pas. Et nous devons, je crois, encore intercéder davantage auprès du Seigneur pour que sa puissance se manifeste. Car nous vivons dans un monde qui devient de moins en moins christianisé, qui se moque des chrétiens, qui se moque de la puissance de Dieu. Et nous devons, par la grâce de Dieu, montrer au monde que Dieu agit encore maintenant. Il se peut-être qu'aujourd'hui, quelqu'un se trouve dans la situation de cette femme, pas spécialement souffrant de la même maladie, j'espère pour vous, mais dans un état d'avoir tout essayé, cherchant de multiples solutions à un ou plusieurs problèmes et ne trouvant pas la solution. Ce matin, essaye Jésus. Va vers Jésus, touche le bord de son vêtement. qu'importe les obstacles qui sont sur notre route, Jésus est la solution à tout problème qui nous atteint. Rien n'est impossible à Jésus. Rien n'est trop grand ou trop petit pour que Jésus ne puisse répondre à nos demandes. Alors ce matin, allons vers Jésus, car il répond à notre cri. Essayons Jésus. C'est peut-être une mauvaise expression, mais je l'emploie. Essayons Jésus. Si nous avons essayé tant de choses, peut-être on a oublié de dire, Jésus, peux-tu, dans ce domaine-là, faire quelque chose pour moi? Et je crois que Dieu va honorer notre foi. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons gloire pour tout ce que tu fais. Seigneur, nous savons que tu es capable d'intervenir là où la médecine, les hommes ne peuvent intervenir. Seigneur, rien ne t'est impossible dans aucun problème qui concerne nos vies. C'est pour cela que ce matin, je veux te placer toutes nos vies entre tes mains. Tu nous connais chacun ce matin. Tu connais nos soucis, nos problèmes, nos maladies, nos maux, nos difficultés, nos doutes. Seigneur, nous te demandons de répondre à notre cri. Oui, bien souvent, nous avons tout essayé. Malheureusement, parfois, nous avons oublié de t'en parler. Seigneur, ce matin, nous t'en parlons parce que nous croyons que tu es capable d'intervenir pour ton peuple. Amen.